Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 114e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Faskil.
Ça va bien Caféine?
Une patate mon gars.
C'est
oh
la
là
fin
là.
De l'année.
Oh, bon, un truc de fou, je suis au taquet, génial. T'as vu, c'est ça le marketing. C'est, tu vois, tu mets tout le monde de bonne humeur dans le métro. Pardon, j'allais dire dans le métro, je suis désolé.
Attends,
je retire. À pied.
À vélo.
À pied. Et vous n'avez pas froid. Et tout va bien. Et la marche, rappelez-vous, c'est bon pour la santé, c'est comme les 5 fruits et légumes, ok?
Tout va bien. Ce qui est bon pour la santé aussi, c'est les vacances, on va en parler tout de suite, puisqu'on sera pas là la semaine prochaine, on a décidé de faire un petit break jusqu'à la rentrée. Il y a pas énormément d'actu en ce moment, et puis bon, moi je déménage, toi t'as des trucs à finir, c'est les fêtes, donc on va faire une petite pause, donc pas de torréfaction jeudi prochain, mais on sera de retour.
Non, vendredi, je te le dis, parce que jeudi c'est...
Oui,
là,
c'est vrai,
nous,
c'est,
nous on enregistre le jeudi.
Oh là là,
c'est important que les gens comprennent que pour nous, torréfaction, c'est le jeudi, c'est notre journée, c'est on prépare, on enregistre, mais en fait, le vendredi, pour nous, il se passe rien, alors que pour vous, c'est ce que vous attendez. Voilà, le secret était éventé depuis 113 épisodes maintenant.
C'est clair.
Mais voilà, il fallait faire le point que tout le monde comprenne pour qu'on se plante sans arrêt.
Bon, allez, je vais rebooter mon cerveau et on est parti. On commence avec le gaming et des nouvelles de la nouvelle Xbox.
Oui, parce que la semaine dernière, très drôle d'ailleurs, on a enregistré donc le jeudi et juste après, il y a eu les annonces pendant les fabuleux Game Awards extraordinaires faites à la saucisse américaine. Pour se lustrer le nombril et se remettre des prix entre amis, des grandes claques dans le dos, genre vous êtes extraordinaire. Et dedans, il y a eu des petites surprises, genre des trailers avec marqué uniquement sur PlayStation 5. Ah bah d'accord, ah, vous êtes comme ça les mecs, vous balancez des trucs, vous prévenez pas. Moi j'ai entendu des petits cris qui venaient de la cave, c'était l'E3 qui était en train de mourir, en train de se plier de douleur, genre mais normalement on garde ces trucs pour moi et... Et il est mort dans un vieux râle dégueulasse. Je pense que le 3 cette année, ça va être compliqué pour eux les pauvres. Puisque donc l'autre annonce qu'il y a eu, ça a été Microsoft qui a lâché comme ça, sans prévenir, une petite vidéo avec une annonce d'une petite boîte qui va s'appeler donc la Xbox Series X. Tout le monde était en mode genre, alors c'est donc ça la Xbox, la nouvelle, la prochaine, ça va être génial. Il y a des morceaux de bravoure hein, sur YouTube. Vous avez des trucs dignes de Actor Studio. Hein. C'est... Si vous voulez voir des youtubeurs s'exciter la nouille sur une annonce, mais vous tapez ça dans le moteur de recherche de notre ami Google, vous allez trouver des trucs extraordinaires. Donc le problème, c'est que cette annonce n'était accompagnée d'aucune explication. On a vu une console format mini tour noire qui a déjà un mini statut de mème sur Internet avec quelques vannes à base de monolithes et de singes. Si vous connaissez vos classiques niveau cinoche, vous savez de quoi je parle. Et puis Microsoft, derrière, est obligé de clarifier un truc, c'est que Microsoft, ils se sont dit Xbox Series X. C'est un peu nul comme nom. Enfin, quel est le délire? De quoi on parle? Est-ce que c'est le nom de la console? Est-ce que derrière, s'il y a un autre modèle, ça va être la Xbox Series X Max Pro? Enfin, tu vois, ça va être un bordel. Donc finalement, non, le nom officiel, et ça, j'aime bien, Microsoft, ils ont fait non. La console, elle s'appelle Xbox. Point. Et donc, le modèle que vous avez vu, c'est la Xbox Series X. Ce qui veut dire que s'il y a d'autres modèles, ils vont s'appeler Xbox Series S, au hasard. Hein. Je dis pas du tout ça parce qu'ils en ont déjà sorti une qui s'appelait à peu près comme ça. Et donc, cette nomenclature devrait pas nous faire des trucs un peu à la Apple qui s'est un petit peu embourbé ces derniers temps dans son marketing avec des iPhone 11 Pro Max.
Ouais.
Alors, je vous adore. Hein. Vous savez, moi, les produits Apple, c'est ma passion. Sauf leur prix. Leur prix, c'est moins ma passion. Mais j'aime beaucoup leurs produits. Mais au niveau de la nomenclature, c'est vrai que là, ils sont un peu dans un bourbier qui est compliqué. Puisque le souci derrière, c'est quand tu parles d'un produit... Si tu dis, c'est un iPhone, oui, mais quel modèle? Donc, t'es obligé de lui associer quelque chose. Mais Microsoft n'a jamais voulu rentrer dans le délire des nombres, etc. Et c'est pour ça qu'ils se disent, Sony fait très bien, mais bon, un jour, ils seront ridicules avec leur PlayStation 11 Pro. Ouais, en attendant, on sait de quoi on parle, donc c'est pas très grave. Puis je vous rappelle que si vous voulez vraiment rigoler, vous reprenez tout le bullshit autour de la Xbox 360 et pourquoi elle s'appelait 360, c'était magnifique. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de réunions pour ça, je pense. Donc voilà, pour l'instant, on s'excite pas, ça sortira sortira effectivement pour les fêtes 2020, donc pour Noël prochain. La date exacte, on ne sait pas, mais à mon avis, on peut viser entre du septembre et octobre. Je pense pas qu'ils attendent beaucoup, beaucoup plus. Peut-être novembre, mais bon, ça va vraiment être dispo pour votre sapin de l'année prochaine. Et on n'a toujours pas d'informations sur ce qu'il y a concrètement dans la machine. On a des pistes, il y a plein de rumeurs, il y a plein de billets qui décortiquent tout ce qu'on sait sur Internet. Allez vous faire plaisir si vous avez du temps à perdre. Ou sinon, vous faites comme moi, vous attendez que les vrais specs tombent.
Allez, on reste dans le gaming. On en avait déjà parlé quand il avait été intégré à ScumVM. C'est le retour de Blade Runner qui est désormais disponible de manière parfaitement légale.
Et oui, sur GOG, qui, GOG, qui a pris les droits, qui a retrouvé les sources, qui a dépoussiéré tout ça. Ça a été un vrai travail d'enquête pour pouvoir remettre à disposition ce classique de 1997. Blade Runner qui tourne, comme tu viens de le dire, sur ScumVM. Et en fait, c'est grâce à cette émulation que le jeu tourne sur GOG aussi. Hein. C'est exactement le même système. Le seul truc que eux ont rajouté, c'est faire le tri avec les ayants droit, qui devait des sous quand ils en vendaient. Et surtout, le code source n'était pas vraiment, on va dire, bien rangé. Donc, il a fallu retrouver des gens qui avaient des morceaux du jeu pour apparemment remettre tout ça dans l'ordre. Et voilà, donc maintenant, c'est disponible. Il est en promo, je crois, encore pendant quelques temps. Alors, pas énorme, hein, 10-15%, un truc comme ça. Mais c'est toujours mieux que rien. Et surtout, on a pu aller chercher ces DVD. Moi, je crois que je l'ai en DVD quelque part, mais je pense qu'il ne marche absolument plus, évidemment. Déjà, je suis en train de me dire que le lecteur de DVD de mon PC, il n'a pas vu passer une galette depuis tellement longtemps que je ne sais pas s'il marche encore.
Donc, c'était déjà du DVD en 97, je me
demande. C'était un milliard de disquettes. Non, à la sortie, c'était un milliard de disquettes. Hein. D'ailleurs, c'était marqué dans une des news que j'avais mis de côté. Je vous ai linké un papier de The Verge à ce propos. Mais il y avait eu une édition DVD, puisque le jeu fait un giga 3, un truc comme ça. Donc, en disquette, je crois que c'est même pas possible, en fait. Non, je pense que c'était un CD dès le départ. C'était l'époque, c'était vraiment l'époque des CD. Donc, je pense qu'on avait peut-être plusieurs galettes. Tu vois, voilà. Tu vas me faire dire des bêtises dans un podcast, Pasquille. Merci beaucoup. Voilà.
Je savonne la pente pour toi.
Non, ça y est, parce que j'ai retrouvé l'information. Car, en tant que professionnel, nous sommes capables d'improviser pendant, tu vois, je meuble pendant que je suis en train de lire des trucs sur Internet en même temps pour faire le mec qui a une culture incroyable.
Quel talent.
Voilà. C'était 4 CD. Il est sorti sur 4 CD. Oh, la version originale, c'était ça. Et ensuite, il y a eu des versions repackagées. comme quoi, il y avait déjà des versions repackagées à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un point and click hyper intéressant qui reprenait plein d'éléments du film, mais qui a eu l'intelligence de ne pas suivre le film. C'était pas du tout dans la peau des cartes. Et ça permet des choses beaucoup plus intéressantes en termes de scénario. C'était un des points forts du titre qui était vraiment sympa. Et en plus, dedans, il y a une image que j'adore parce qu'ils avaient complètement repompé un tableau que j'adore de Edward Hopper qui s'appelle Nighthawks. Il y a des gens qui sont en train de prendre un café dans un truc un peu désert, et dans le jeu ils avaient refait la version Blade Runner de cette image qui était vraiment ultra bien foutue.
Ouais, puis il y avait plein d'embranchements possibles en fonction de tes choix. Puis il y avait certains personnages qui étaient soit des réplicants, soit pas des réplicants au début de jeu. Il y avait un espèce de RNG par rapport à ça, et donc du coup en fait il y avait une rejouabilité qui était assez rare pour les point and click de l'époque. Et c'est vrai que c'est un titre assez assez mythique en fait finalement. Donc si vous y avez jamais joué, moi je dis foncez quoi.
Ça vaut le coup, ça vaut 10$, donc chez nous ça va être à peu près 10€. Il y a une petite promo, comme je le disais, donc c'est le moment d'en profiter, les amis. Foncez, c'est 8,19€ chez nous, ça ne vous ruinera pas pour Noël.
Allez, on va se prendre une bonne barre de rire maintenant, puisqu'on va parler de Stadia.
Oh oui, yes, Stadia.
Donc, la révolution.
La révolution, by Google. Non, alors pourquoi on rigole? C'est parce qu'ils avaient annoncé qu'ils rajouteraient quelques jeux supplémentaires pour Noël. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et à quel prix?
C'est ça le problème.
Alors déjà, ça ressemble à rien en termes de catalogue, c'est vraiment une blague. Donc il y a Dragon Ball 2 Xenoverse, voilà, 50 balles. Faut avoir envie, hein, si on peut, voilà, hein, faut vraiment aimer Dragon Ball 2. Ensuite, nous avons un Borderlands pour la modique somme de 60€ et uniquement 39€ si vous avez Stadia Pro. Alors Borderlands 3 est déjà soldé à peu près partout. La version super deluxe, c'est quand même 80€ si vous avez Stadia Pro, donc il n'y a pas de cadeau. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, les contenus additionnels et les patchs sont en décalage par rapport à la version PC, c'était ou même aux consoles, hein. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués pour l'instant sur la version d'octobre, mais qu'ils ne peuvent pas déployer les patchs actuels parce que c'est du travail et qu'ils ne sont pas prêts. Donc c'est aussi ça, le futur du streaming, c'est des mecs qui galèrent pour mettre les trucs à jour. Bravo Google. Et on finit avec mon petit préféré, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, qui donc est le gros four d'Ubisoft de la fin d'année, donc n'y allez pas, hein, déjà, faut pas l'acheter, je le rappelle. Et malheureusement, parce que moi je suis un énorme fan de l'édition précédente, donc autant vous dire que ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir ça, et qu'ils vendent à entre 60 et 120 euros en fonction de l'édition, car Breakpoint Ultimate, avec toutes les cosmétiques, machin et tout, du multi où il y a personne, ne l'achetez pas, je le redis, bah écoute, 120 balles, c'est une grosse blague. Et pourquoi on en parle du coup? C'est parce qu'en fait, ces jeux sont déjà disponibles. Par exemple, Ghost Recon, tu le trouves déjà à moins de 35 balles, je crois, pour PC aujourd'hui. Donc, non seulement tu payes le prix fort, et en plus, tu l'as en streaming, et parfois, tu n'as pas le dernier patch, apparemment. Donc, voilà, Google, écoute, je pense que tu pouvais garder ton truc en bêta encore quelques
slow
temps.
Clap.
Et voilà, non, c'était pas la peine de vous précipiter, les mecs. Donc, voilà, je pense qu'on n'a pas fini de rigoler. Il y a eu plein d'autres trucs hein, qui ont fait marrer plein de gens. J'ai vu passer pas mal de papiers cette semaine sur les sites américains où le titre était des variantes autour de Stadia aurait dû rester en bêta. Et je viens de vous le dire et je le répète, effectivement, si même pour les early adopters, pour l'instant, c'est pas la bonne solution. Si vous voulez jouer dans le cloud, écoutez, regardez du côté de GeForce Now, regardez même du côté de Shadow, ça sera de toute façon plus pratique et vous aurez la main sur ce que vous installez, sur ce que vous voulez faire. Pour l'instant, Stadia, ne serait-ce que à cause du fait que bah, y a aucun pont possible avec les jeux que vous avez déjà, ouais, genre sur Steam, etc. Rien que pour ça, bah, c'est niette, quoi. Donc voilà, et je vous rappelle que le cimetière de Google est rempli de projets avec des bonnes intentions. Donc quand on me dit oui, mais c'est Google, ça peut pas foirer.
Et si.
Ah les gars, si vous saviez, il faut être très naïf pour sortir ça quand même de nos jours. Bref, voilà, donc on a bien ri et on va pouvoir passer à la suite.
Allez, on va reparler d'un jeu dont on avait déjà parlé et pour lequel je ne sais toujours pas comment on prononce ce titre, Noita, on va dire.
Ouais, Noita, on en a déjà parlé deux fois, c'est la troisième fois. Indice, j'aime bien ce jeu. je crois que là, je suis cramé. Hein, j'aime vraiment ce titre qui est vraiment hyper sympa. Et pourquoi on en parle? Parce qu'ils ont sorti encore un patch assez violent avec plein de nouveaux phénomènes météo. Je vous rappelle, hein, tout est géré avec des petites simulations et chaque pixel est un élément en fait. Ça peut, si vous touchez du feu, bah, vous allez prendre feu. Si vous êtes en plus, vous avez de l'huile sur votre toche de magicien et que vous touchez du feu, voilà, il n'a pas besoin de faire des grosses études pour savoir que ça va pas bien se passer. Et du coup, ils ont rajouté plein d'éléments, plein de nouveaux éléments, avec plein d'interactions possibles. Ils ont aussi corrigé pas mal de bugs, et ils ont rajouté plein de petits trucs pour le modding. Parce que évidemment, maintenant, il y a des mods, et on peut rajouter plein de choses. Il y a déjà des mecs qui ont fait des niveaux complets, complètement débiles. J'ai vu passer des espèces de Star Wars à base de bastons de sabre laser. Voilà, c'est du pixel art, c'est facile à modder, les mecs se font plaisir. C'est pareil, ça coûte pas très cher, c'est dispo en early access, on en a déjà parlé plein de fois, donc je vais pas y repasser 1000 ans. Allez-y, Noita, si vous savez pas à quoi jouer pendant les vacances, tentez cette petite perle.
Allez, on passe du côté des apps avec des news, du côté de Zenkit.
Ah, Zenkit, le mal-aimé. Il faut que je fasse une petite news sur cette nouveauté sur Geekzone, j'espère que j'aurai le temps de la finir ce soir pour que vous puissiez la lire demain.
Donc aujourd'hui.
C'est, oui, donc aujourd'hui. Tu vois, ah, c'est à mon tour.
Tu vois,
ah,
voilà.
Ça, c'est pas facile. Non, on voyage dans le temps, c'est hyper compliqué, les gens se rendent pas compte. Donc Zenkit, sur lequel je vais écrire une news maintenant pour vous hier, qui puisse être publié demain pour vous. C'est le bordel, plus personne comprend rien, et Kaf, reprends-toi. Donc Zenkit, c'est un gestionnaire de projet, un gestionnaire de tâches qui est fait pour fonctionner aussi bien en solo qu'en équipe, qui a un petit problème dans la vie, c'est qu'il doit se bastonner avec des gens qui sont un peu plus formes au niveau du marketing, qui sont un peu mieux installés. Évidemment, on connaît Asana, on connaît Trello, on connaît Wunderlist, paix à ton âme, ouais. Qui du coup sont des produits qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui sont surtout faits par des startups américaines qui ont plus facilement accès à la presse et hexagonale et internationale pour faire parler d'eux. Zenkit s'est fait en Allemagne, c'est un petit peu moins connu, on en a nous parlé plusieurs fois parce que je trouve que le produit est très intéressant, il est d'un très bon rapport qualité-prix, ils ont un parti pris sur l'interface qui est vraiment pas mal et il évolue vraiment de belle manière au fil des années. Et donc là, ils ont rajouté un truc qui manquait pas mal, surtout par rapport à la concurrence actuellement, c'est du wiki. Alors maintenant, il y a une vue wiki à l'intérieur du truc. Et pourquoi c'est important? C'est parce que quand ils sont aperçus que quand on fait de la gestion de tâches, de la gestion de projet, bah souvent on a besoin de rajouter des informations sur le projet lui-même. On a besoin de faire des pages dédiées, par exemple, pour expliquer à un nouvel employé comment ça se passe. On parle de onboarding, donc on peut mettre en place toutes les voilà, comment ça se passe dans cette boîte dans laquelle tu viens d'arriver, où aller chercher tes tickets resto, etc. Et toutes ces questions, eh ben, sont regroupées dans un wiki qui va pouvoir vivre au même endroit que là où tu vas gérer tous tes projets, toutes tes tâches, etc. Donc ça, c'est un truc qui est un petit peu obligatoire dans la mesure où il y a des concurrents qui se sont placés directement sur ce genre de truc. Je pense à Notion, Asana, je crois qu'ils n'ont pas encore ça, mais ça ne devrait pas tarder, car quand il y a une bonne idée, Asana la récupère au bout d'un moment, ça ne fait aucun doute. Voilà, donc il y a plein de boîtes qui sont comme ça en train de partir sur ce système de wiki pour pouvoir rajouter une pierre à leur édifice et de la valeur ajoutée tout bêtement à leur produit. Donc Zenkit, ils ont fait ça, c'est fait assez proprement en fait, c'est une vue séparée sur ton projet, tu peux taper un éditeur qui est vachement sympa, voilà, si vous avez fait du Word, vous n'allez pas être perdu, il y a une petite barre avec les outils qui vont bien. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est du Markdown, donc vous pouvez copier-coller des textes que vous avez déjà préparés sur d'autres outils, etc. Et ça va tout de suite faire la mise en page grâce au Markdown. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est le Markdown, c'est parce que peut-être je n'ai jamais fait ce fameux papier sur lequel je devais expliquer ce qu'est le Markdown sur Geekzone depuis 2015. Mais je vous promets que si vous faites la recherche sur Wikipédia, vous aurez toutes les informations de la même manière. Ça sera parfait. Donc voilà, c'est dispo au même prix que d'habitude. C'est pas une option en plus, etc. C'est quand vous êtes sur les tiers payants professionnels, vous y avez accès évidemment direct. Et je crois que si vous êtes en solo gratuit, je ne sais pas si c'est accessible, car mon compte est trifouillé par les dieux du marketing de chez Zenkit, donc je ne sais plus si c'est gratuit ou pas. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires et m'insulter si c'est payant. Mais en tout cas, ça fonctionne bien, et si vous avez un besoin autour de ça, c'est un outil à garder en tête. Et moi, comme je dois faire des recommandations bientôt pour des petites boîtes justement qui cherchent à changer leur gestion de projet, il fait partie de la sélection finale. Maintenant, ça sera eux qui choisiront à la fin, mais vraiment ne l'oubliez pas quand vous êtes en train de décider ce que vous allez utiliser pour gérer toutes vos tâches, voire même vos listes de cadeaux de Noël. Il paraît que c'est l'époque.
Ouais, je sais pas. allez, on continue dans les apps avec des news du côté de Twitter qui débarquent sur iPad, enfin.
Non, alors il y avait déjà une version iPad.
C'est vrai.
Ils se sont rendu compte qu'en fait l'écran était plus grand, incroyable.
Ah zut alors.
2019, Twitter, les outils officiels. Putain, excusez-moi, je suis mal poli, hein, mais Twitter et l'app officielle, enfin en tout cas, moi et l'app officielle Twitter, c'est une vieille relation de haine. c'est pour ça que j'utilise principalement Tweetbot, que ça soit sur mon Mac ou sur iOS, et que je suis très très triste quand je suis sur un téléphone Android ou malgré des Phoenix ou des choses comme ça. Et sur Windows, j'ai un vieux client qui est plus jamais mis à jour, mais je préfère encore utiliser ça que la version web, tu vois, donc j'ai vraiment un problème. Mais là, ils ont essayé de faire un effort, donc il y a une version iPad qui est en train d'être déployée actuellement. Si vous avez Twitter sur iPad, normalement vous allez bientôt avoir une version optimisée et qui est un petit peu mieux fichue pour gérer la largeur de votre écran, et parce qu'ils se sont rendu compte qu'effectivement il y avait quand même beaucoup de vide quand tu utilisais l'application officielle. Alors après, ça va pas changer votre vie, hein. Vous avez une colonne avec a priori les trends, vous allez pouvoir un petit peu la customiser, mais ça sera jamais au niveau de ce qu'on a avec un Tweetbot ou un Twitterific. Donc je vous rappelle que si vous utilisez Twitter et si vous aimez votre iPad, offrez-lui pour Noël une vraie application Twitter. Je pense que vous le remercierez et vous passerez plus de temps sur Twitter. Donc bon, c'est peut-être une connerie ce que je suis en train de vous dire. Ne le faites pas si vous voulez rester productif, mais c'est assez agréable à utiliser.
Allez, on passe du côté de la culture. C'était difficile de passer à côté cette semaine puisque c'était la semaine de la sortie du 9e et a priori dernier épisode de la saga Star Wars, enfin particulièrement de la saga Skywalker. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir, toi.
Pas du tout, et je suis censé peut-être éventuellement sur un malentendu aller ce week-end, mais je ne me suis pas encore décidé, car j'ai cru entendre, mon cher Fasquille, que c'était une grosse édition, un cru exceptionnel.
Ouais, écoute, je vais vous faire une petite review sans spoiler, donc pas la peine de zapper si vous n'avez pas encore vu, je ne vais rien révéler. Moi, j'ai eu la chance de le voir en projection de presse mardi, et comment dire, c'est la douche froide. Les critiques sont relativement unanimes.
T'as plus de cœur, en fait.
Non, mais même pas, tu vois. Enfin, je me disais, bon, ok, je suis plus trop fan de Star Wars depuis un moment, à part le Mandalorian, qui est fantastique. voilà, j'y suis allé en n'attendant rien. Et comme dit la formule, j'en attendais rien. J'ai quand même été déçu. Les critiques sont relativement unanimes. On est à 58% sur Rotten Tomatoes. C'est très, très peu. C'est du niveau de Phantom Menace.
Ah ouais.
Donc, ça donne une idée. Alors, après un Last Jedi qui avait pas mal divisé les fans, moi, je l'avais largement préféré à Force Awakens, mais bon, ça, c'est personnel. On sent que sur ce coup, donc The Rise of Skywalker, on sent que Lucasfilm a voulu la jouer safe, hein, un peu trop safe, et ça se voit beaucoup. Il y a plein de problèmes. Je vais vous lister quelques trucs qui, moi, m'ont vraiment fait tiquer. On sent que c'était à la base potentiellement un film qui avait été prévu en deux parties, qui a été condensé en une seule. Donc du coup, ça va très très vite. Il y a un paquet de raccourcis dans le scénario qui sont pas toujours très heureux, mmh. et d'artifices scénaristiques assez bateaux pour faire avancer l'intrigue rapidement. Alors corollaire évidemment de cette rapidité, c'est que tous les personnages secondaires passent complètement à l'arrière-plan. Ils ont aucun arc. Les Finn et compagnie. Voilà, ils sont là, ils servent de faire-valoir et de sidekick et on n'en apprend pas plus sur eux et sur qui ils sont. Il y a plein de choix scénaristiques discutables, il y a un plot twist par rapport à Rey, je vous en dirai pas plus, qui est vraiment, enfin en tout cas que moi j'ai trouvé vraiment ridicule. Beaucoup trop de fanservice gratuit. Alors le fanservice c'est cool, hein, moi j'aime bien ça dans les films Marvel, mais c'est cool quand c'est utilisé avec parcimonie. Là c'est pas le cas, ça va vraiment jusqu'à l'indigestion et c'est encore pire que dans Force Awakens, en tout cas j'ai trouvé. Beaucoup trop d'emprunt encore une fois à la trilogie originelle, il y a carrément un acte complet du film, le troisième en l'occurrence, qui est pompé sur un autre film de la franchise. Enfin, c'est vraiment la même mécanique. Donc c'est un petit peu énervant, et en plus il y a un paquet de retcon par rapport à Last Jedi, hein. On sent que vraiment Lucasfilm n'avait pas du tout planifié sa trilogie proprement et ils ont été un peu pris de court par ce qu'a fait Rian Johnson dans Last Jedi. Et du coup, il y a des retcons de J.J. Abrams sur ce film pour dire oui, mais non, en fait, pas vraiment.
C'est quoi les retcons, Fasquille?
Retcon, c'est quand tu revisites un truc et que tu réécris un peu l'histoire en disant oui, mais en fait, c'était pas tout à fait ça.
D'accord.
En fait, ça s'est passé comme ça. Donc, je vous rappelle, hein, dans The Last Jedi, ça commence par Luke Skywalker qui balance son sabre laser. Eh bien, il y a une référence dans The Rise of Skywalker qui est vraiment ultra, ultra bateau pour dire oui, mais non, en fait, c'est pas vrai. Donc voilà, enfin je vous en dis pas plus. On attendait beaucoup mieux comme chapitre final d'une telle saga. C'est quand même une saga qui avait démarré en 77. Même moi, comme je disais, qui suis pas fan absolu de la saga, j'en attendais rien. Et j'ai quand même réussi à sortir de la salle en me disant, eh ben je viens de perdre 2h30 de ma vie. Donc voilà. Après, il fallait pas confier le scénar à J.J. Abrams et Chris Terrio. On vous rappelle que Chris Terrio, c'est quand même lui qui a pondu Justice League et Batman versus Superman. Donc voilà.
Je pense oui.
Que... Oui, mais oui. Voilà,
ah mais je savais pas. Et ah si... mais je vais garder mes sous. Merci de me libérer pour ce week-end, Fasquille.
Voilà. Alors venez m'insulter dans le forum si vous voulez, on peut en discuter, mais moi vraiment pour le coup ça a été la grosse déception et je suis quelque part rassuré de voir que je suis pas le seul à le penser. Quand je vous disais que c'était 58% sur Rotten Tomatoes, c'est vraiment très très peu pour un film Star Wars, hein. Je veux dire, même un mauvais film Star Wars ou un film Star Wars potable, c'est plutôt du côté des 70%. Là on est vraiment du côté, comme je disais, de Phantom Menace qui est
du
vraiment
côté obscur.
Voilà, exactement. Donc The Rise of Skywalker, grosse déception, on attendait mieux et puis on espère que pour le coup là ils ont décidé de faire une pause, hein, si j'ai bien compris, de 2-3 ans avant de recommencer à faire du Star Wars. Et en tout cas, ils ont décidé d'arrêter avec la franchise, enfin la saga Skywalker et de partir vraiment sur autre chose. On espère qu'ils vont nous faire des trucs parce que l'univers est vraiment riche et il y a moyen de faire tellement de choses. On l'a vu avec Mandalorian, je sais que je tape un peu sur le clou avec cette série, mais il y a vraiment moyen de faire autre chose dans l'univers Star Wars et des choses qui, pour le coup, parlent un peu à tout le monde et pas simplement aux fans de la saga.
Il faut arrêter avec Gigi surtout, quoi.
Et il faut arrêter avec J.J. Abrams aussi. Enfin, je veux dire, ça fait un moment que moi je dit que ce mec est un escroc et ça se confirme. Enfin, je veux dire, voilà, il a fait un truc ultra safe, ultra fan service et c'est vraiment dommage, quoi. Il y avait moyen de faire mieux.
Mais le mec l'avait déjà fait avec Star Trek en plus. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas être surpris, quoi. Enfin, bref, ouais, on va arrêter de tirer sur l'ambulance
voilà,
et on va parler d'un truc qui est bien, Fasquille.
Oui, tout à fait. On va parler de The Expanse qui est de retour. C'est sorti donc vendredi dernier. C'est la nouvelle saison, saison 4. Alors, je rappelle que c'est une série qui avait été annulée par Sci-Fi après 3 saisons, qui avait été reprise de volée par Amazon parce que, apparemment, notre ami Jeff Bezos était fan. Et donc il avait sorti le portefeuille en disant « Allez, j'achète !»
Merci Jeff.
Ouais, pour ce coup-là, on va le remercier. Maintenant, s'il pouvait payer ses impôts, ça serait pas mal aussi. Ça faisait un moment qu'on l'attendait, donc cette saison 4, puisque la saison 3 s'était terminée, je rappelle, le 27 juin 2018, donc ça fait un petit moment. On rappelle vite fait ce que c'est. C'est une série de science-fiction inspirée des romans de James S.C. Corey. Alors, James S.C. Corey, c'est un pseudonyme derrière lequel se cache un duo, en fait, Daniel Abraham et Ty Frank. Et donc, les showrunners de cette série sont Mark Fergus et Hawk Oddsby, des gens que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui étaient les scénaristes du premier Iron Man et qui sont donc les showrunners depuis le début de la série. Les 10 épisodes sont sortis d'un coup sur Amazon Prime vendredi dernier, comme je l'ai dit. Et moi, j'ai vu que le premier pour le moment, et je kiffe, ça a été un vrai bonheur de retrouver la team du Rocinante. Rocinante, Rocinante, je sais
Rocinante.
Plus. Rocinante. Rocinante, toi, t'as tout vu déjà, et apparemment, ouais, c'est de la balle.
Bah, j'ai tout vu. J'ai pu, du coup, comparer mon avis avec celui déjà de gens qui avaient déjà tout bingé sur Geekzone. Sur le forum, on est à peu près unanime, à part une ou deux personnes qui sont en mode genre bon ok je vais le regarder parce que j'ai dû passer à côté d'un truc, vous êtes beaucoup trop enthousiaste, je ne comprends pas ce qui se passe, et les notes sur Rotten Tomatoes justement tu disais qu'elles étaient assez incroyables.
Ouais, c'est 100% côté critique et 97% côté public, c'est vraiment c'est le high score quoi.
Putain, 100% bam, ouais,
tout le monde trouve ça génial.
Si vous aimez la science, je vais être très simple parce qu'on va pas spoiler, si vous aimez la science-fiction et des gens qui savent écrire des histoires avec des personnages qui prennent de l'ampleur et qui ont des vrais questionnements sur
les vrais
vie.
Arcs surtout. Ouais.
Il y a des vrais arcs, c'est ultra bien joué. Enfin vraiment, je suis impressionné. Voilà, il faut mater ça. J'ai pas kiffé une série de SF comme ça depuis 1000 ans, depuis les tout débuts, les deux premières saisons, on va dire, de Battlestar Galactica. Et je mets même The Expanse au-dessus. Il y a de la politique, il y a des histoires humaines hyper fortes, il y a de la trahison. Il y a une vraie réflexion sur à quel point l'humanité c'est un sacré panier de crabes et que on est vraiment capable des pires saloperies même quand on va crever, au cas où vous en douteriez. Hein. Et c'est vraiment ultra bien fait. Les effets spéciaux pour une série télé sont tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pas du tout cheapos. Il y a peut-être une ou deux scènes sur vraiment l'intégralité de la saison qui sont un tout petit peu en dessous, et quand vous les verrez, il y a rien. C'est absolument pas catastrophique du tout. Hein. Mmh. Ça reste une série télé et je trouve qu'ils s'en sont extrêmement bien sortis sur cette problématique là. Je ne spoil rien, mais quand vous aurez vu la saison, vous comprendrez. Et puis surtout la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont déjà en train de faire les épisodes de la saison 5.
Oui, tout à fait, j'allais le dire.
Voilà, qui est prévu pour 2020, et apparemment ils viennent de boucler par exemple l'épisode 5 qui est déjà tourné là a priori. Et moi je suis hyper content parce que voilà, sans spoiler, la saison 4 se termine comme une saison où tu sais qu'il en a une autre après.
Bah oui, avec un gros cliff.
Voilà. Mais ne vous retenez pas, ça va pas vous empêcher de profiter du reste, donc c'est pas la peine de vous dire j'attends la saison 5. Non, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, allez mater ça. Donc si vous avez un abonnement Prime chez Amazon, vous avez Prime Video, donc vous pouvez aller voir directement la saison, et ça vaut le coup parce qu'avec Mrs. Maisel et un paquet d'autres séries de qualité qu'ils ont maintenant en exclu, s'ils avaient pas une interface qui de temps en temps est un petit peu pourrie, pour être gentil, je trouve qu'ils font un comeback sur les séries financées par leur portefeuille, qui est vraiment impressionnant. Mais bon, sans tergiverser sur ce côté-là, The Expanse, si vous aimez la SF, les vaisseaux spatiaux et les vraies histoires, foncez. On est loin de certains trucs qu'on retrouve sur toutes les canettes de coca en ce moment, et qui n'est pas à la hauteur de sa réputation.
Et puis sinon, allez aussi mater For All Mankind sur Apple, qui se bonifie d'épisode en épisode. C'est vraiment une des toutes grandes séries, et pour le coup, je trouve que ça aurait dû être le flagship d'Apple et pas cette série Newsroom débile. C'est pas Newsroom, mais bref, j'ai déjà oublié.
Ils ont vraiment pas assuré. For All Mankind a pas du tout le support d'Apple qu'il devrait avoir. Pour moi, c'est effectivement la meilleure série Apple TV. Et si vous n'avez pas Apple TV Plus, qui s'est passé toujours pas dispo en France, n'oubliez pas d'appeler votre oncle Bob VHS.
C'est ça. Et on termine cette section culture juste avec un petit plug pour vous rappeler la sortie hier du dernier épisode des Clairvoyants, dernier épisode de l'année dans lequel on parle bien évidemment du trailer de Black Widow. On fait aussi un focus sur Taskmaster, qui sera a priori l'antagoniste principal du film, qui est un perso que moi j'adore.
Cette donc, saloperie de perso, tu veux dire?
Tout à fait. Donc voilà, on a fait un podcast, un dernier épisode cette année avec mes amis Fox et Archeon. On dépiote un peu de tout ça. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur geekzone.fr. On passe du côté de la tech avec... tu voulais taper sur le mythe de la lumière bleue. Est-ce que tu penses que ça mérite un petit jingle? C'est la merde, ça fait longtemps.
Je sais pas, mais vas-y, lance-le. Allez, je sais que ça te fait plaisir.
Le dernier de l'année.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Donc, la lumière bleue, c'est de la merde.
Moi, ce qui me fait bien plaisir, c'est que donc il y a les premières études un petit peu étayées avec du boulot derrière qui commencent à prouver que cette histoire de lumière bleue, c'était comme on le pensait. Enfin, depuis pas mal de temps, pas mal de gens se disaient que ça avait l'air quand même un peu suspicieux comme histoire. Donc, je rappelle que le mythe de la lumière bleue, c'est que la lumière de vos écrans vous empêche d'aller faire dodo car ça fout la merde dans votre rythme circadien. Et mais pourquoi la lumière bleue? Mais parce que les fréquences, machin. En vrai, rien n'avait été prouvé clairement. Mmh. Et du coup, il y a des gens qui se sont penchés sur cette question depuis un petit moment et les premières études commencent à sortir et les premiers résultats, c'est que la lumière bleue, on s'en fout en fait. La problématique, c'est la luminosité tout court. C'est pas du tout la fréquence de cette lumière. C'est pas du tout le fait que vous ayez du bleu dans votre iPad qui vous empêche de dormir. C'est juste que vous prenez de la lumière en pleine gueule et que ça peut avoir un impact. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir. Je vous ai linké un papier parmi d'autres qui est sorti chez nos amis d'Apple Insider. Je vous laisse aller lire tout ça parce que je vais raconter des bêtises si j'en fais trop sur ce genre de sujet. Il faut connaître ses limites. C'est important. Demandez aux gens qui essayent de réformer les retraites. Des fois, ça dérape. Hein. Voilà, il y a des moments, il faut savoir s'arrêter. Moi, je voulais juste me moquer gentiment de tous ces gens qui mettent leurs petites lunettes jaunes pour streamer, pour jouer, etc. Je trouve ça très, très drôle de voir des streamers avec ces lunettes-là, effectivement. Parce que les mecs passent 28 heures par jour. Oui, je sais, c'est pas possible. Arrêtez. Streamer et se filmer en même temps. C'est ridicule, ces lunettes. J'ai des noms, hein. Je balancerai personne, mais j'en connais, personnellement. Et je leur dis, arrête avec tes lunettes, t'as vraiment l'air de rien. Et en plus, maintenant, je pourrais leur dire, ça sert à rien. Enfin, oui, mais j'ai moins mal aux yeux. Ouais, mets des lunettes de soleil ou baisse la luminosité de ton écran. Mais les lunettes en question ne changent rien au final. Et en plus, c'est vendu ultra cher, alors que les trois quarts du temps, c'est des bouts de plastique dégueulasses.
Comme tous les trucs de charlatan. Hein.
C'est ça. C'est snake oil. Hein. C'est exactement ça. Donc, généralement, quand vous regardez en plus d'où ça vient, avec quoi c'est fabriqué, je pense que vos yeux sont obligés de faire deux fois plus d'efforts pour traverser le verre en plastoc dégueulasse que vous avez mis devant vos yeux. Donc voilà, vous pouvez arrêter. Je pense qu'encore quelques années et on aura l'explication et le pourquoi du comment que la lumière bleue, c'était vraiment une énorme connerie.
Voilà, maintenant que tout le monde a désinstallé Flux, on passe à la dernière news tech avec des news du côté du Mac Pro.
Alors le Mac Pro, c'était juste pour vous linker un papier hyper intéressant à propos du Mac Pro. Oui, je sais, oh là là, il est hyper cher. Bon, ils auraient dû l'appeler Mac Workstation, Workstation Apple Pro, je sais pas, tu vois, mais pour expliquer que c'était normal de vendre cette machine à ce prix-là. Je rappelle que les tarifs, ça va genre de 5 000-6 000 $ jusqu'à 50, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est une machine qui est faite pour faire ce que faisaient les Silicon Graphics dans les années 90. Hein. Donc, c'était des machines à parfois plus de 100 000 $ dans les années 90, les Silicon Graphics. Il faut comparer ce qui est comparable. Et je vous rappelle que si vous mettez un Dell, si vous configurez une Dell Workstation à donf, vous pouvez avoir un truc largement plus cher qu'un Mac Pro, il n'y a aucun souci. Quand vous avez besoin de gros matos, il faut avoir un gros chéquier, point barre. La vérité, c'est que le Mac Pro ne servira pas à grand monde, à part si vous faites de la 3D, enfin des trucs vraiment super haut de gamme. Sinon, un Mac Mini boosté, ça ira très bien les mecs, hein, je voulais vous dire, détendez-vous. Mais je voulais en parler parce que du coup, je vous link un papier qui vient d'un site que l'on ne link pas très souvent, car largement au-dessus du nombre de neurones que j'ai personnellement, qui s'appelle Popular Mechanics, et qui a été interviewé Chris Lichtenberg, qui est le Senior Director of Product Design, et qui est le mec qui a en fait bossé et géré l'équipe qui a fait les entrailles de ce Mac Pro et qui explique le truc le plus impressionnant sur cette machine. C'est une machine qui est blindée de RAM, de cartes qui chauffent, etc. Et il y a trois gros ventilos devant la bécane et elle ne fait pas un bruit. Et donc tout le monde est en mode genre, mais comment c'est possible que cette machine, même quand on la balance, mais on met tous les corps du processeur à fond, elle continue de pas faire de bruit. Et donc dans ce papier, il vous explique comment ils ont développé les ventilos en interne avec un design de ventilateur complètement pensé, comme en aéronautique par exemple. Ils font pas de bruit parce que c'est impossible. Au bout d'un moment, t'as un ventilateur qui tourne avec de l'air qui passe dessus, il va faire du bruit. Par contre, il a été conçu et les pales ont été modélisées pour faire un bruit qui soit pas un truc horrible, super strident. Tu sais, un peu comme les petits ventilos qu'on a parfois dans certains appareils qui te vrillent les oreilles, alors que fondamentalement, le truc est pas fort. C'est juste que le son est ultra pourri. Donc, le mec t'explique, il y a toute une théorie autour des fréquences, etc. Des choses qui peuvent même rendre le son agréable. Et du coup, tu t'en fous. Si ça ronronne à côté de toi, ça te dérange pas du tout. Du coup, ce papier est hyper intéressant et ils ont eu la même réflexion et le même taf pour l'écran qui va avec, qui coûte pareil assez cher, hein, je ne vous le cache pas, mais qui est assez incroyable, Pro Display XDR. Et il y a aussi une explication qui fera plaisir à tous les amateurs de parmesan, c'est pourquoi ces trous, pourquoi cette forme de trou dans le boîtier et dans l'écran. Et là, c'est pareil, il t'explique la théorie qui va derrière sur la surface nécessaire pour que l'air se refroidisse en sortant ou en rentrant dans le boîtier, etc. Donc, il n'y a rien qui est dû au hasard ou à un caprice de designer. C'est ultra intéressant et c'est pas pour ça que vous aurez peut-être 6 000 $ à mettre dans une configuration de base, mais en tout cas, vous aurez appris des choses.
Si vous avez mis 6 000 $, vous saurez pourquoi maintenant.
Exactement.
Et c'est la fin de ce 114e épisode de Torréfaction. Comme on vous le disait, pas de Torréfaction la semaine prochaine. On se retrouve donc dans 2 semaines. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, à l'année prochaine, comme on dit. Personne ne rit à cette vanne d'habitude, mais j'aime bien la faire quand même. On se retrouve donc l'année prochaine.
T'as toutes les excuses, t'es belge. Excuse-moi, voilà. Tu voulais finir ce podcast? Je te dérange peut-être.
On va aller, moi je vais aller faire mes cartons puisque je déménage ce week-end et toi tu vas retourner bosser, c'est ça?
C'est ça, j'ai un peu de trucs à terminer, mais après je pense que je vais également profiter de ce week-end pour aller récupérer. Il paraît que tu as décidé de me faire regarder Mr. Robot, donc
je vais essayer de t'y mettre un moment et je pense que ça devrait te plaire en fait finalement.
Je vais rattraper mon retard.
On vous rappelle l'existence bien évidemment du patreon.com/geekzonefr. C'est l'occasion, c'est les fêtes, donc si vous voulez venir mettre un petit peu de sous dans la cagnotte et nous aider. Voilà, s'il vous plaît, petite pièce pour venir nous aider donc à produire des podcasts et puis à prendre un petit peu plus de temps pour bosser sur le site parce que à un moment il faut bien bouffer. Donc n'hésitez pas à faire un saut et à venir vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Torréfaction. Ciao.
Ciao ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les Clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he's my brother.
He killed 80 people in 2 days.
He's adopted?